Bien, bonjour à tous. On va lire ce matin, si vous voulez bien, 4 ou 5 passages très courts. Donc je vous donnerai les références si vous voulez les relire à la maison. Hein. Et donc je voudrais commencer, ça sera passage principal, par un verset qui est le verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, au verset 30. Matthieu 26, 30, c'est un verset qui dit ceci: « Ils chantèrent alors les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. » Ils chantèrent alors les psaumes, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors c'est un verset qui a l'air extrêmement banal, mais moi j'ai été frappé en lisant ça, parce que c'est, à ma connaissance, le seul passage où on voit Jésus en train de chanter. Comme vous le savez, quand vous lisez l'Évangile, on voit beaucoup Jésus en train de prêcher, d'imposer les mains aux malades pour les guérir. On le voit aussi manger et boire, on le voit même dormir. Mais là, c'est le seul passage, à ma connaissance, où on le voit chanter. Et c'est un peu surprenant au vu de la place qu'a la musique dans nos cultes. J'étais tout à fait réjoui de chanter avec vous ce matin. À Mirecourt, dont je viens, on aime aussi beaucoup chanter. Alors ici, dans ce passage, il s'agit d'un chant de tradition. Ça faisait partie du rituel de la Pâque. Donc le contexte, c'est cette dernière soirée que Jésus va passer avec ses disciples. C'est quelque chose qui est très formaté. On est dans le judaïsme. Il y a ce rituel de la Pâque. Et à la fin du repas, et une fois qu'on a pris tout, il y a un ordre précis des aliments, etc., on se met à chanter. Et très probablement, il s'agit de ce qu'on appelle en musique un chant antiphonique, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui chante un verset et le groupe reprend après lui, ou répond, si vous voulez. Et donc on peut imaginer que là-dedans, c'était Jésus le leader, donc un verset de chanter et un autre verset en réponse. Il y a deux choses qui précèdent immédiatement ce chant, dans ce contexte-là, ce soir-là. Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas. C'est quand même quelque chose de grave d'annoncer qu'un de vos amis les plus proches va vous trahir. Et puis, il vient d'annoncer sa mort violente. Et il a institué ce que nous appelons la Sainte Cène. Prenez, mangez. Parce que mon corps va être brisé pour vous, mon sang va être versé pour vous. Donc on est dans un contexte qui est lourd, qui est très chargé. Il n'y a pas une espèce de gaieté désinvolte dans l'air, d'accord? Et il y a deux choses, si vous suivez, si vous lisez ce chapitre, il y a deux choses qui vont suivre immédiatement ce chant. Jésus va annoncer aux disciples leur défection, c'est-à-dire Judas va le trahir, mais tous les autres vont l'abandonner. Et Jésus, quelques instants plus tard, dans ce jardin de Gethsémané, va être pris d'angoisse face à ce qui l'attend. Et donc autant ce qui vient avant ce verset que ce qui vient après est extrêmement chargé. Et c'est pour ça que pour moi c'est très frappant de voir Jésus en train de chanter. Il chante, j'imagine il chante de tout son cœur, et il a le cœur brisé. Il a le cœur brisé et il chante quand même de tout son cœur. Et voyez, on est là dans cette situation, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la conception très, très festive de nos cultes. Il y a une, je dirais que c'est une mode, hein, je vais être un peu méchant, mais une mode qui est en train de se développer dans les grandes villes, dans les grandes églises, c'est les concerts de louanges. Ça devient une véritable culture chez certains. Alors, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les concerts de louanges, je suis aussi pour qu'on ait des cultes joyeux. Personnellement, je ne suis pas le dernier à frapper des mains et même un peu à danser sur place. Et c'est vraiment bien qu'on se réjouisse quand on se rassemble autour de la personne du Seigneur. Mais il n'y a pas que ça dans le chant. Il ne peut pas y avoir toujours une dimension festive. On ne peut pas être toujours porté par la super musique. Alors, dans des églises comme les nôtres, moi je suis pasteur d'une petite église, hein, on n'a pas forcément une sono tonitruante, des musiciens professionnels, etc. Hein. Mais voilà, on peut être dans une culture où on est un peu porté par la musique, c'est bien, quoi, un genre de concert quelque part. Hein. Et là, j'aimerais donc vous parler d'autre chose, d'une autre manière de comprendre la musique, la louange. Alors, je me pose la question, Jésus chante tout son cœur, il a le cœur brisé, il chante quand même. Alors, pourquoi il chante? Déjà, il chante pour accomplir la loi. Il se coule dans le moule du rite, parce que, comme je viens de vous le dire, ce repas de la Pâque, c'est très très formaté chez les Juifs, et ces chants qu'on chante, ça fait partie d'une liturgie, en fait. Donc, Jésus n'est pas là pour satisfaire une envie de chanter. Il est là parce que il se coule dans ce moule de l'homme religieux, de l'homme juif. Vous savez, il est écrit qu'il a accepté la malédiction de la loi pour justement nous libérer de la loi. Et nous avons donc l'exemple là de Jésus, qui ne chante pas pour satisfaire une envie quelconque, mais qui rentre dans ce qu'on pourrait appeler un protocole, parce qu'il veut servir son Dieu. Et il chante malgré tout. Et je crois qu'il y a là vraiment un grand exemple pour nous, c'est cette nécessité de maintenir notre louange contre vents et marées, quel que soit notre état intérieur. Il est tellement facile de louer le Seigneur quand tout va bien, le ciel est beau. Mon patron m'a convoqué il y a 3 jours pour m'annoncer une augmentation substantielle. J'attends mon premier enfant, et ça se présente très bien. Et donc je loue le Seigneur. Maintenant, quand le patron me convoque en début de week-end pour me dire qu'en fait c'est une erreur et que, en fait, vu les comptes de la boîte, l'augmentation, ça sera, c'est repoussé à plus tard, et que le médecin annonce à ma femme que l'accouchement du petit a une complication, et que la météo nous annonce des trombes d'eau pour le week-end prochain, alors qu'on avait prévu le barbecue, ben là, je ne louerai plus le Seigneur. Hein, voilà. Vous savez, le psaume 42, c'est le psaume de quelqu'un qui est déprimé. Il se parle à lui-même, il dit, mais vraiment, je suis déprimé, quoi. Je suis abattu. Mais il termine en disant, je te louerai encore. Voilà, je pense que l'exemple que nous donne le Seigneur Jésus-Christ ici, c'est de louer envers et contre tout. Et je voudrais vraiment vous encourager à être là à tous les cultes et à louer le Seigneur de tout votre cœur. Non pas parce que, comme le Seigneur Jésus, on se coule dans la loi d'une religion, mais parce que justement on a été libéré de ces choses-là, de ce genre d'obligation, de ce genre de fardeau, de ce genre de liturgie. Et qu'on peut vraiment arriver avec un cœur libre, et qu'on peut, c'est le cas de le dire, s'en donner à cœur joie devant Dieu, mais par esprit de service. Donc j'ai envie, tant mieux, j'ai pas envie, tant pis. D'ailleurs, vous avez dû remarquer comme moi, que si vraiment vous voulez servir Dieu, vous venez au culte par esprit de service, et que ben, la semaine n'a pas été bonne, et la semaine qui s'annonce ne sera pas bonne non plus. Et vous ouvrez la bouche par esprit de service. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Le premier chant sera peut-être difficile. Le second, il faut se forcer un peu quand même. Mais il y a quelque chose qui se libère en nous. Le Saint-Esprit prend le relais. Et voilà que je peux chanter de tout mon cœur. Et là, je ne suis plus dans l'esprit de service même. Parce que Dieu m'a libéré pour que je le loue. Donc notre culte, ce n'est pas un rassemblement de copains sympas auxquels on vient si on a envie. Mais notre culte, c'est un culte rendu à notre Dieu. Il nous donnera les forces pour le louer, quelles que soient les circonstances. Donc Jésus chante parce qu'il se coule dans un moule. Je pense aussi, dans ce passage-là, vu le contexte, il chante pour se préparer à l'épreuve. C'est vraiment l'épreuve de sa vie. Pas simplement d'ailleurs parce qu'il va mourir. Déjà, ça, je pense que ça plomberait le moral de la plupart des gens parmi nous, savoir qu'on va mourir très prochainement, mais en plus c'est la manière de mourir, ce qui est impliqué, porter notre péché, être séparé du Père, dont Jésus est vraiment devant l'épreuve avec un grand « et », l'épreuve de sa vie. Et je me l'imagine chantant de tout son cœur parce qu'il s'agit là d'un chant de consécration pour se fortifier dans la résolution à la fidélité. Il sait qu'il va, dans l'heure qui vient, être pris dans des événements qui vont le broyer, même si c'est prévu, on va dire. Et il chante pour se fortifier. Il chante certainement aussi pour se consoler. Et j'imagine que dans cette angoisse qui commence à monter en lui, bon, c'est tout à fait paradoxal, mais il doit y avoir quand même un élément de joie. Vous savez, il y a ce verset qui dit que même avec un visage triste, le cœur peut être gai. Et même au cœur de l'angoisse, il peut y avoir quelque chose en nous, une lumière qui brille, une joie, comme une flamme qui est là. Et donc nous avons là cet exemple de Jésus qui nous donne cet exemple de la capacité de tenir son cœur en bride. On est dans une époque où les émotions balaient les gens. On est un peu dans une époque d'ailleurs où on est en faillite de la rationalité déjà. Alors les gens ne sont même pas cadrés dans leur tête. Donc les émotions vont les balloter. Et nous, chrétiens, nous avons cet immense privilège de connaître le Seigneur, d'avoir son exemple et d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous, peut-être pour nous tenir là où nous-mêmes on ne se tiendrait pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc Jésus nous donne cet exemple, cette capacité de tenir son cœur en bride et de soumettre son ressenti à sa mission. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais je crois que pour plusieurs d'entre nous, on aurait tendance à faire l'inverse. Je soumettrai ma mission à mon ressenti. Tant que je sens le truc, c'est bon, j'y vais. Quand je commence à plus le sentir, ben la mission, on ne pourrait pas un peu renégocier les objectifs, là ? Je sens plus trop, là. Jésus soumet son ressenti à sa mission et non l'inverse. Et le chant qu'il chante exprime cela. Voilà un peu pour ce premier passage. Maintenant, j'aimerais, si vous voulez bien, prendre avec vous trois versets dans ces psaumes. Donc, ces chants qu'il chante à la fin du repas, comme je vous l'ai dit, ça faisait partie du rituel, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Hallel. Ce sont les psaumes 113 à 118, dont on les chantait d'affilée. Hein. C'est des psaumes très courts, donc on les enchaînait, psaume 113, psaume 114, etc. Et on les appelle le Hallel parce qu'ils se terminent tous par Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc dès qu'on avait fini le repas, on avait bu les coupes de vin, etc. Eh bien quelqu'un, on peut penser que c'était Jésus ici, commençait à entonner ses chants. Et donc j'aimerais prendre trois versets, un dans chaque psaume, enfin pas dans trois psaumes différents. Et donc le premier, c'est, j'aimerais vous lire le psaume 113, verset 3. Et ceci nous dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. Je pense que vous connaissez bien ce verset. Hein. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, il y a 2000 ans, c'est moins vrai maintenant, même à la campagne, mais il y a 2000 ans, la vie quotidienne était vraiment rythmée par la course du soleil. Il n'y avait pas d'électricité, donc on se couchait avec les poules et on se levait avec le soleil. Et donc, en fait, dire du lever du soleil jusqu'à son coucher, c'est une manière de dire toute la journée. La nuit, on dort, mais pendant la journée, on loue le Seigneur et on loue le Seigneur toute la journée. Et donc ce verset, psaume 113,3, est une invitation pour nous à vivre dans la louange permanente. Alors, je vous disais il y a une minute, moi je vous invite vraiment à être présent à tous les cultes, pas pour faire plaisir à votre pasteur, même si c'est un homme qui mérite qu'on lui fasse plaisir, mais bon, pas pour faire plaisir à votre pasteur, pas pour être bien vu de vos frères et sœurs. Je suis convaincu que vos frères et sœurs, c'est des gens très bien, mais vous venez pour le Seigneur, et franchement, vous priveriez de quelque chose si vous n'étiez pas là le dimanche. Mais ceci étant dit, si votre louange, c'est 35 minutes le dimanche et rien dans la semaine, Bon, honnêtement, vous êtes à plaindre, quoi. Vous ratez quelque chose, là. Il y a vraiment quelque chose à découvrir de la louange permanente. Alors, ne soyez pas à chanter à tue-tête au boulot parce que votre patron vous convoquera en disant « il faudrait voir la médecine du travail, la section psy hein. ». Bon, vous voyez ce que je veux dire bon. Donc, il y a manière et manière de louer, voyez ce que je veux dire, on peut louer dans sa tête, on peut louer au volant de sa voiture, en voyant le rond-point qui est bloqué par les gilets jaunes, vous vous mettez à louer le Seigneur, voilà, qui dégagera l'obstacle pour vous. Moi, je n'ai pas eu cette foi-là et j'ai évité les gilets jaunes ce matin en passant par les petites routes, mais je vous rassure, je louais le Seigneur au volant de ma voiture, voilà, hein, voilà. Donc, à l'époque, ils vivaient dans un monde assez un peu primitif, on va dire, rythmé par la course du soleil. La louange, on pouvait, ben, on se levait le matin, on louait le Seigneur, puis ça allait jusqu'au soir. Mais de nos jours, vous avez remarqué que nous sommes dans un monde qui est globalisé. On est à l'ère de la mondialisation. Et en fait, notre vie, enfin, la vie des habitants de cette terre est quand même assez découplée de la course du soleil. Et il suffit que vous ouvriez votre radio, eh bien, vous avez un flot d'informations qui viennent du monde entier, et ce n'est pas lié à votre petite journée à vous. Et alors, je voudrais vous rappeler un fait qui est très simple, c'est que si on prend cette journée aujourd'hui où nous sommes, le premier culte à la surface de la terre, chez des chrétiens comme nous, on va considérer que ça se passe à 10 heures, hein, eh bien, c'était hier soir, donc il y a 12 heures, en Sibérie, à Vladivostok, parce que l'heure internationale commence en Sibérie. Et donc, eh bien, à 10 heures, ils étaient, c'était leur dimanche, d'accord ? Et le dernier culte aura lieu ce soir, à 10 heures, en Alaska. Des gens comme nous se réuniront quelque part en Alaska pour louer le Seigneur, alors qu'on sera déjà sur le point d'aller au lit. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, il y a une situation qui est quand même assez nouvelle, par rapport à ce qui se passait à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ben, c'était les Juifs qui louaient le Dieu d'Israël. Hein. Donc tout ça s'était compacté dans la même journée et à la même heure. Hein. Et là, eh bien, c'est quand même une période passionnante de l'histoire de l'humanité. Le vœu qui est exprimé là, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit loué, qu'il soit loué en continu, se réalise, en ce sens que 24 heures sur 24, vous avez des gens qui louent le Seigneur. Quand l'un se couche pour dormir, l'autre se lève pour louer le Seigneur. Quand des églises arrêtent leur culte, d'autres sont en train de le commencer. Et comme ça, il y a une espèce de rotation. Il y a maintenant des chrétiens à la surface de la terre entière. Et donc le nom du Seigneur est loué par des gens qui le connaissent en esprit, en vérité. Et à ce moment-là, on vit quand même dans une époque formidable. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure à laquelle je vis, moi, il y a des gens qui sont en train de lever les mains pour adorer le maître qui les a rachetés. C'est génial. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que c'est bien quand nous nous réunissons pour nos cultes, ou bien quand on a une pensée comme ça pour le Seigneur dans la journée, le remercier pour sa grâce. C'est bien d'être en communion avec l'Église persécutée, parce que je viens de vous dire que 24 heures sur 24, il y a des gens qui louent le Seigneur, mais comme vous le savez, dans plusieurs dizaines de pays du monde, les chrétiens sont persécutés. Et cette louange, elle leur coûte. Quelque part, au moment où je parle, ou quelques heures avant, ou quelques heures après, quelque part, quelqu'un sur cette terre paie un prix parce qu'il a décidé de se réunir pour louer Dieu. Moi, je me lève le matin, il y a un quart de centimètre de neige, ouh là là là, je ne sens pas trop d'aller au culte. Hein. Ou alors je me lève et puis, bof, ma tendinite, c'est là, ça ne s'améliore pas. Hein. Je crois que je ferais bien de rester à la maison, hein, parce que il ne faudrait pas qu'elle s'aggrave. Hein. Il faut que je sois en forme pour le boulot demain. Voilà, c'est comme ça que j'ai tendance à réagir, moi, là. Il y a des gens qui risquent leur vie pour venir louer le Seigneur. Et il n'y a pas la musique et il n'y a pas les micros. Hein. C'est une louange souvent très discrète. Parce qu'il ne faut pas se faire repérer par la police. Et ces gens-là persévèrent dimanche après dimanche. Et dans certains cas, et dans des cas nombreux, et de plus en plus de cas, ils risquent de fortes amendes, ils risquent la prison, certains même risquent leur vie. Alors je crois qu'en même temps qu'un esprit de louange, c'est bien que nous portions continuellement dans la prière nos frères persécutés. Vous savez, les catholiques ont une notion qui est tout à fait intéressante, ils parlent de communion des saints. Ce n'est pas une expression qu'on a dans nos milieux, mais on pourrait l'adopter, parce que c'est une réalité, et c'est aussi une réalité à découvrir. Que je sois en communion avec des gens qui, comme moi, louent le Seigneur pour les mêmes raisons, sauf que contrairement à moi, eux, ils risquent quelque chose, et parfois ils risquent beaucoup. Vous avez entendu parler, par exemple, la situation en Chine est en train de s'aggraver de mois en mois. Tout le monde dit que Xi Jinping, c'est le nouveau Mao Tse-tung, si les choses continuent. Et de plus en plus, dans un pays comme la Chine, et là on parle de centaines de millions de nos frères, en tout cas plus de 100 millions, la situation se durcit. Vous risquez de perdre votre boulot, d'être renvoyé de l'université, d'être mis à l'amende, etc. Et qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez tout? Ça pourrait nous arriver à nous. Donc c'est bien d'avoir une pensée pour eux. Et je conclurai cette pensée en disant ceci. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais combien y a-t-il de personnes dans le crâne d'un Français moyen? Je veux dire que vous prenez un Français moyen, lambda, gilet jaune ou pas gilet jaune, peu importe. Avec combien de gens est-il en forte, en lien d'âme, vous voyez, en forte communion? Combien? Je pense que la moyenne, c'est très très bas. Les gens, ils ont leur femme, leur gosse, un ou deux très bons amis, ou un ou deux collègues au boulot, et c'est à peu près tout, quoi. Ça tourne à 7-8 personnes, hein. Après, il y a des gens qu'on aime bien, comme ça, mais t'es là, c'est bien, t'es pas là, c'est aussi bien. Et nous, nous avons cet immense privilège, en tant que chrétiens, ça fait partie du package qu'on a reçu à la conversion. On a déjà 3 personnes de la Trinité à être en communion, c'est déjà pas mal. Mais en plus de notre famille naturelle, vous avez déjà votre église, et vous êtes vraiment en forte communion avec des gens. Ça fait des années que vous êtes ensemble dans les mêmes cultes, que vous avez fait des cours alpha, des ceci, des cela, et ça crée des liens. Il y a un combat commun dont vous pensez à eux. Et s'ils sont malades, vous priez pour eux. Et vous pouvez être aussi en communion avec des gens que vous n'avez jamais vus. Simplement, vous avez lu leur nom dans Portes Ouvertes. Vous avez eu à cœur de prier pour eux. Parfois, vous pouvez leur écrire. Et parfois, même, ils vous répondent. Je me rappelle avoir écrit à... On est en train de reparler d'elle, c'est il y a une dizaine d'années. Cette femme qui était... Je crois qu'elle travaillait dans une léproserie dans le sud de l'Inde. Et son mari était évangéliste et son mari a été brûlé vif dans sa voiture avec 2 enfants, si je me rappelle bien. Haynes s'appelle. Et moi, j'écris à cette sœur. Je ne pensais pas qu'elle me répondrait, hein, parce que des lettres, elle a dû recevoir des centaines. Elle a répondu. Je pense à elle de temps en temps. Prie pour elle. Elle fait partie des gens qui peuplent mon crâne, même si c'est un peu lointain. Mais c'est un immense privilège. Il y a quand même une aération là-dedans, d'accord ? Le Seigneur agrandit nos cœurs. Et il y a de quoi louer le Seigneur de tous ces gens qui souffrent et qui tiennent debout. Et ces gens qui risquent leur vie et leurs églises grossissent de plus en plus. Ça vaut le coup, d'accord? Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit loué. Verset d'après dans le psaume 116, versets 12 à 14. Psaume 116, versets 12 à 14. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe de délivrance et je crierai le nom du Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de son peuple. Vous imaginez le Seigneur Jésus en train de chanter ça. Et en contexte, dans la situation, juste après avoir chanté ça, je lèverai la coupe de délivrance. Il est effondré. Au pied d'un olivier, il transpire des larmes de sang, d'angoisse, et il dit « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Parce que c'est inhumain comme situation. Mais il s'en remet à la volonté du Père. Là, ce n'est pas la coupe de délivrance. Hein. C'est la coupe amère de notre iniquité, comme dit un des cantiques qu'on chante. Il s'en remet à la volonté du Père. La coupe, il la boira. Et par obéissance, il va être fidèle à sa mission. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai. En présence du peuple, vous savez que la crucifixion, ce n'est pas la même chose que d'être exécuté dans un coin de cour de prison. C'est un public, c'est une exécution publique. C'est la honte. Les gens vous voient, ils vous crachent dessus, ils vous insultent. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de son peuple. Vous voyez que quand le Seigneur Jésus chantait ça, il y avait quand même... C'était un peu plus chargé que quand on le chante nous, il faut reconnaître. Alors je pense que pour nous, qui chantons ce genre de choses, il y a plusieurs de nos cantiques qui disent ça, c'est bien de valoriser la fidélité envers Dieu, comme Jésus lui-même l'a fait. L'attachement à notre mission. C'est un truc que j'ai failli vous parler de ça, et puis bon, bref, le Seigneur m'a mis sur le cœur ce message-là, mais ils ont, dans l'armée israélienne, vous savez que c'est une armée, c'est pas une armée d'opérette, hein. Il y a toujours des combats, etc., et ils ont une mission, une notion, un concept qui est central dans leur éthique militaire. Alors c'est vrai, dans notre armée à nous aussi, mais chez eux c'est beaucoup plus, on le touche du doigt tous les jours. C'est l'attachement à la mission. Tu as une mission, tu mets tout en œuvre pour la réaliser. Et tu ne viens pas me dire que c'était trop dur, que tu n'as pas trouvé l'endroit, que la météo était trop mauvaise. Tu as une mission, tu la remplis. Je crois que c'est bien de nous attacher à cette mission de notre église locale. Notre église locale s'investit dans divers secteurs. Il y a du travail pour tout le monde. C'est bien que nous nous lions les uns aux autres pour porter la parole de Jésus en dehors des murs de l'Église et que nous soyons attachés à cette mission qui est la nôtre de témoigner de sa grâce, la recherche de l'honneur de Jésus, parce que combien de fois Jésus est déshonoré, parfois même par des gens qui se disent chrétiens. Et donc cette mentalité d'aller de l'avant, envers et contre tout, d'honorer Dieu, parce que justement, on peut élever la coupe de délivrance, il nous a libérés, il nous a bénis, alors, bon, je ne vais rien payer en retour, c'est clair, il y a quand même un peu un retour d'ascenseur, il faut le dire, hein. Je veux vivre pour lui. Eh bien, il faut le dire, tout ça, ce désir de nous attacher ensemble dans le service, ça peut aller à l'encontre d'engagement humain. Il peut y avoir des tensions avec la vie professionnelle, la vie familiale, etc. Ça peut aller contre les attentes de l'entourage. La pression sociale. Je me rappelle un petit souvenir comme ça qui me vient. Donc je suis engagé ici dans l'Est depuis bientôt 40 ans. Et pas question d'en partir, ma mission elle est là, hein, dans la ville où Dieu m'a mise. Et je viens du sud-ouest à l'origine, et j'ai, comme tout le monde, eh bien, j'ai vu mes parents vieillir, décliner. Et moi j'étais ici, et eux ils étaient là-bas. Et il y avait des pressions légitimes, on va dire, notamment de la part de ma sœur qui était... pas très loin de chez eux, de dire, mais pourquoi tu redescends pas? Pourquoi tu demandes pas ta mutation? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Moi, je servais le Seigneur ici. Et j'ai conscience que mes parents ont vieilli sans moi. Et quelque part, ils sont morts dans la solitude. Et il faut vivre avec ça. Le Seigneur a permis que dans les deux cas, quand mon père est décédé, j'avais pu passer une bonne semaine avec lui. Mais parce que ça tombait juste pendant des vacances, hein. C'était faisable. Et pareil, quand ma mère est décédée, c'était pendant des grandes vacances, et j'ai pu passer tout le temps qu'il fallait à ses côtés, d'une grâce de Dieu. Mais tout ce qui avait précédé les années de solitude, il faut dire, il a fallu l'assumer. Et si c'était à refaire, je referais, hein, parce que j'avais une mission. Et que la mission passe avant l'attachement humain. Avant l'image, ça aurait été bien pour moi de donner l'image du bon fils. Hein. Déjà aux yeux de mes parents, aux yeux de mes cousins, cousines, aux yeux de ma sœur. Ouais. Alors je ne sais pas si je suis passé pour un mauvais fils ou pas, ce n'est même pas mon problème, mais en tout cas j'ai dû assumer ça. C'est que la mission passe d'abord. Et ça aussi, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais ça fait partie de la louange. C'est aussi une manière de louer Dieu, de crucifier l'affection humaine, pour que lui soit honoré. Et d'ailleurs, alors je n'avais pas du tout prévu de vous dire ça, mais je ne veux pas trop dériver, mais il y a quand même un retour d'ascenseur. C'est la dernière parole que ma mère a prononcée. C'était pendant la grande canicule de 2003, j'arrive, la ville de Toulouse était mais déserte, mais c'est incroyable, hein. Pas un chat dans les rues. Il devait faire du 40 degrés, j'étais à 3h de l'après-midi. Je tourne en rond dans le quartier pour trouver l'hôpital. Je rentre dans l'hôpital, l'hôpital également désert. Elle était dans une chambre, toute seule. Je rentre donc, elle me reconnaît. J'ai vu qu'elle m'avait reconnu. Et vous savez, moi j'étais le fils chéri de mes parents. Vraiment. Ce n'est pas une bonne chose pour eux que le Seigneur m'ait envoyé à l'autre bout de la France. Donc bref, j'arrive, je rentre dans la chambre, je dis bonjour maman, elle me reconnaît, elle me regarde, et elle me dit ceci, je n'ai besoin que de lui. C'était qui lui? C'était Jésus. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire spécifiquement Jésus ou Dieu le Père, ou peu importe, je ne rentrerai pas dans le détail. Je n'ai besoin que de lui. Et franchement, connaissant ma mère, l'attachement qu'elle avait pour moi, ce qu'elle aurait dû dire logiquement, humainement, c'est « Ah, tu es venu, tu es là, toi, d'accord ?» Et elle m'a occulté. Elle a dit « Je n'ai besoin que de lui. » Je peux vous dire, c'est très paradoxal, mais c'est certainement l'un des meilleurs souvenirs de ma vie. Ma mère avait compris, elle s'était tournée vers Dieu, ce que tous les fils veulent, hein. Plus quand on est dans le ministère, on prêche pour que les gens se convertissent. Et ça me donne l'assurance totale que je la reverrai, que quand mon cœur s'arrêtera de battre, je la retrouverai. Et je dis, il y a quand même un lien direct avec le fait que j'avais accepté ma mission. Et elle en a souffert, j'en suis sûr, comme moi j'en ai souffert. Mais j'ai montré par mon exemple qu'il y avait plus grand que moi, d'accord ? Et que le lien qui pouvait exister entre nous, que Dieu devait passer d'abord, que sa louange à lui devait passer d'abord. J'ai dit, dernière parole de ma mère, pour moi c'est jackpot. D'accord ? Voilà. Je citerai un dernier psaume, et puis il sera temps pour moi de conclure. Psaume 118, verset 24. Non, pardon, verset 22. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, celle de l'angle. Et cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. C'est un verset qui, vous savez certainement, est plusieurs fois cité par Jésus dans ses controverses avec les leaders religieux. Il se l'applique à lui-même. La pierre à rejeter, c'est lui, évidemment. Et il y avait chez Jésus cette capacité de s'appliquer l'Écriture à lui-même et de s'appuyer sur les promesses de l'Écriture pour dépasser les souffrances présentes. Oui, il sait qu'il va être rejeté, et d'une manière extrêmement cruelle et même scandaleuse, mais il a en vue la gloire à venir. Au-delà du rejet immédiat, Jésus voit la gloire qui l'attend. Et il sait qu'il sera la pierre sur laquelle repose toute son Église et toutes nos vies. Et donc pour nous, il est bien de toujours prendre Jésus et de le prendre de plus en plus comme fondation de chaque aspect de notre vie. Pour mon travail, pour ma santé, pour ma vie de famille, mes engagements professionnels, mon engagement dans l'Église, tous les secteurs, hein, imaginez un genre de camembert, hein, il y a des portions comme ça, tous les secteurs de ma vie, il est bon qu'ils soient pleinement appuyés de tout leur poids, je dirais, sur Jésus, pour voir son action triomphante. Car cela vient du Seigneur, pour nous c'est une merveille. Et donc, plus j'apprends à m'appuyer sur Jésus, plus je verrai son action triomphante dans ma vie, plus je verrai ses merveilles. Et je pourrais dire vraiment, je vois bien, c'est pas mes efforts, c'est pas mes mérites, c'est pas mon intelligence, mais c'est vraiment l'action de Dieu dans ma vie. Ça vaut le coup. Il y a de quoi louer, d'accord ? La lettre aux Colossiens nous invite à être fondés sur lui, également enracinés, comme un arbre prend racine dans une terre fertile. L'image d'un arbre qui enfonce ses racines de plus en plus profond dans le sol. Et donc, vous voyez, Jésus, ça doit être pour nous bien autre chose qu'un genre de tremplin ou de piste de décollage en début de vie chrétienne. Il y a des gens comme ça. Hein. Bon, quand on est dans le ministère, on en voit une paire. Hein. Des gens, ça démarre très bien. Vous faites des enseignements de baptême, vous dites, voilà quelqu'un qui a compris ce qu'est la grâce de Dieu. Voilà quelqu'un, quand il loue le Seigneur, il sait pourquoi il loue le Seigneur. Formidable. Repasser quelques années après, le décollage était très bon, mais le reste du vol n'est pas terrible, hein, faut reconnaître. Il y a eu perte de contact avec lui, manifestement. La personne s'est laissée, d'une personne à une autre, les raisons peuvent être multiples, mais la personne s'est laissée accaparer par d'autres choses qui n'auraient pas dû être prioritaires, etc. Or, ça donne une vie chrétienne, la personne n'est pas dans le péché, elle est sauvée, on va dire. Mais ce n'est pas ça que Jésus voulait pour elle. Il avait d'autres ambitions pour elle. Et donc, il est bon qu'à l'inverse, au lieu d'avoir un contact superficiel avec Jésus, une vie assez improductive finalement, on soit enraciné en lui, qu'il soit vraiment la pierre angulaire de chacun des secteurs de notre vie, parce que ça vous donne une vie qui vaut le coup d'être vécue. Je crois que si vraiment nous sommes fondés sur Jésus, la vie, elle vaut le coup d'être vécue. La vie avec lui, même la vie dans ce monde, avec tous les ennuis qu'on peut avoir par ailleurs, mais ça vaut vraiment le coup d'être vécu. Ce qui fait que quand je débarque au culte de dimanche matin, eh bien j'ai vraiment de quoi louer le Seigneur. Conclusion, j'aimerais revenir à mon verset d'origine. Ils chantèrent alors les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Ce qui me frappe dans ce verset, je vous disais au début, c'est que Jésus chante. Il a le cœur brisé, il chante quand même. Ce qui me frappe maintenant dans ma conclusion, c'est qu'ils ont bien chanté, je suppose aussi. Et ayant chanté, ils se sont empressés d'abandonner leur maître. Dans l'heure qui avait suivi, ils s'étaient tous dispersés. Et je me dis, moi, peut-être qu'ils auraient mieux valu qu'ils chantent un peu moins ou qu'ils chantent un peu moins fort, et puis qu'ils soient plus lucides sur leur propre faiblesse, ce qui les aurait amenés à demander l'aide du Saint-Esprit et à ne pas abandonner leur maître. Alors, ils ont été ce qu'ils ont été, hein. Vous savez que ils sont revenus à Dieu, ils ont été rétablis. La plupart d'entre eux ont donné leur vie dans des terres lointaines. Donc l'histoire se termine très bien. Mais on est là dans un passage qui n'est quand même pas très bon. C'est qu'ils chantent et puis dans l'heure qui suit, ils ont un comportement qui n'est pas bon. Et moi, ça me renvoie à moi en me disant, ok, je suis de la même nature qu'eux, certainement pas plus malin, pas plus sanctifié, pas plus courageux, quoi que ce soit. Donc, Seigneur, garde-moi. Donc, je veux chanter de tout mon cœur au culte. Mais je veux crier à Dieu jour après jour et autant de fois par jour qu'il faudra pour que tous les jours de la semaine, il me garde dans l'esprit de la mission qui est la mienne. Dans la préoccupation que son honneur à lui soit mis au centre. Dans la préoccupation que ma louange soit pure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Donc faisons cela. Je vous invite vraiment à être au culte dimanche prochain et à chanter le Seigneur de toutes vos forces. Je vous invite aussi à chercher à honorer Christ de toutes vos forces chaque jour de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.